Vous êtes sur RTL.
RTL. Le journal inattendu.
Je m'appelle Katia Bonnet-Chouili. Je suis née le 21 juin 87 à Batoumi, en Géorgie. Je suis pianiste.
12h30, 13h30.
Virtuose. Katia Bunyatichvili est dans le journal inattendu avec Ophélie Meunier sur RTL. Bonjour Katia Bunyatichvili.
Bonjour Ophélie.
Quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le journal inattendu. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 13h30 et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission. Alors dites-nous, parce qu'il y a eu débat juste avant dont on refait la télé, comment se prononce votre nom bien à la géorgienne?
En géorgien, ça sera Khatia Bunyatichvili, mais comme je suis géorgienne et française aussi, oui. Même si je fais de petites fautes de français, en français on dit Katia Bunyatichvili parce que Khatia c'est vraiment difficile de prononcer. Mais donc c'est les deux, je suis libre à l'interprétation de chacun. Vous pouvez choisir.
Alors si vous me l'accordez, je vais garder Katia Bunyatichvili, ça va être plus simple.
Pas de problème.
Vous êtes aujourd'hui l'une des plus grandes virtuoses du piano, une artiste libre, féminine et féministe. Dans vos interprétations, il y a le talent, bien sûr. Mais il y a aussi une énergie folle, c'est presque animal. Votre nouvel album, Labyrinthe, est sorti hier. Vous nous emmenez de Bach à Vivaldi en passant par Ennio Morricone et même Serge Gainsbourg. On va tenter de découvrir un peu plus aujourd'hui cette petite fille qui a donné son premier concerto en Géorgie à l'âge de 6 ans, avant de devenir une star du piano. Mais je n'en dis pas plus, car c'est le moment pour vous de faire votre autoportrait. Voilà. Alors Katia Bunyatichvili, qui êtes-vous ?
Je m'appelle Katia Bunyatichvili, je suis née en Géorgie il y a 33 ans, le 21 juin, le jour du solstice et de la musique. Quand je suis née, ma mère, mon père, ma sœur et le piano étaient là et m'attendaient. Depuis, beaucoup de choses se sont passées, j'ai perdu et rencontré beaucoup de gens, mais ces quatre sont restés toujours là, dans ma vie, avec moi. J'aime la Géorgie et elle me manque parce que mon enfance et la fraîcheur des sentiments d'époque me manquent. J'aime la France parce que j'aime voir en moi une femme libre qui fait ses propres choix. Depuis que j'ai 20 ans, je n'ai pas cessé de voyager. J'ai voyagé partout et chaque jour. C'était difficile de m'attraper. Mais depuis 7 mois, tout a changé soudainement. Et nous avons aperçu que ce que nous savions dès le début, que nous ne décidons pas toujours nos vies. Nous pouvions peut-être, mais trop de détails qu'on n'arrive pas à définir s'ils sont vraiment importants ou pas, nous empêchent. J'ai beaucoup trop réfléchi, je n'ai pas assez réfléchi, je ne connais pas mon avenir, car chaque fois que je m'approche de lui, il s'échappe. Donc j'ai décidé de rester là où je suis.
Ben vous êtes avec nous dans le journal inattendu pendant une heure et on va en profiter. Mais d'abord, l'actualité de ce samedi. Avec un rassemblement de 700 personnes très malvenues dans le Loiret en pleine crise sanitaire, nous sommes en direct de Nevoix où une association évangélique a décidé de maintenir malgré tout son assemblée générale annuelle. Donald Trump se relance à fond dans sa campagne présidentielle à peine remis de son hospitalisation due au Covid-19. Prise de parole cet après-midi à la Maison-Blanche, meeting physique lundi en Floride. En revanche, le prochain débat face à Biden en virtuel est annulé. Dans ce journal rencontre avec un petit prodige français du piano, son histoire est étonnante. Et puis on ira faire un tour du côté de la porte d'Auteuil au programme à Roland-Garros aujourd'hui. La finale dames avant le duel Nadal-Djokovic prévu demain. Et puis la météo, Peggy Broche, c'est un week-end où il va faire un peu frais.
Eh oui, bonjour Ophélie, seulement 12 degrés prévus cet après-midi à Langres, 13 à Lille, c'est juste, 15 à Paris, à Cherbourg, à La Rochelle, 16 à Nantes, comme à Lyon, 18 à Bordeaux, 22 à Perpignan et 23 à Toulon. Ça reste quand même de saison près de la Méditerranée. Côté ciel, globalement moins de nuages que ce matin prévu cet après-midi, sauf entre les Pyrénées et les Alpes, où ça reste chargé avec encore des pluies sur les reliefs et de la neige dès 1700 mètres. Entre l'Aquitaine et l'Alsace, c'est un ciel de traîne, entre alternance de passages nuageux, de belles éclaircies et d'averses. Et puis au nord et à l'ouest, c'est plus lumineux que prévu et plus sec finalement. On en profite avant l'arrivée en fin de journée de nouvelles averses qui seront plus nombreuses au nord de la Seine. Et puis ça reste très beau près de la Méditerranée et la Corse.
Merci Peggy, on vous retrouve à 18h parce qu'à 13h, c'est vous Katia qui fait la météo et vous allez même nous donner des nouvelles du temps en Géorgie. C'est prévu.
Le journal inattendu sur RTL.
C'est un rassemblement qui interpelle à l'heure où les restrictions sanitaires se durcissent de jour en jour. Aujourd'hui, à Nevoy, dans le Loiret, 700 personnes d'une association évangélique sont réunies pour leur assemblée générale annuelle. L'association Vie et Lumière s'est engagée à respecter les règles de distanciation en vigueur. Mais pour le maire de la commune de Nevoy, la tenue de cet événement est choquante. On retrouve sur place Gauthier de Lombugard. Alors Gauthier, comment l'association s'est-elle organisée ?
Eh bien, dès l'arrivée sur le parking où sont garées des dizaines de voitures, le masque est obligatoire. Tous les participants le portent. Même constat autour du grand chapiteau monté pour l'occasion ou encore vers la buvette. Le pasteur Joseph Charpentier est l'organisateur de l'événement.
Nous mettons en place la distanciation de 1 mètre entre chaque participant sous le chapiteau. Nous avons mis des produits hydroalcooliques pour que les gens puissent se laver les mains aussi souvent qu'ils le désirent. Donc c'est vrai qu'on essaye de prendre toutes les précautions. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les gens restent sur le site. Ils ne vont pas à l'extérieur, ni dans le Génois, ni dans les communes alentour. Ils restent que sur place et ils repartent.
Donc ce qui veut dire, si je comprends bien, il y a peu de risques qu'ils transmettent éventuellement le virus dans la région.
Donc non, c'est pour ça que je veux rassurer les gens.
Ce rassemblement a été autorisé par la préfecture car il s'agit d'une assemblée générale d'association sur un terrain privé et non d'un événement festif incompréhensible pour les habitants de la petite commune de Nevoy et le maire qui a dû annuler par exemple des événements de moins de 30 personnes dans la salle polyvalente du village. Incompréhensible aussi car le Loiret est en zone rouge et le nombre de cas ne cesse d'augmenter dans le département.
Merci Gauthier de Lombugard à Nevoy pour RTL. Je rappelle qu'à la fin du mois de février, un rassemblement évangélique de 2000 personnes à Mulhouse avait été considéré comme l'un des premiers clusters du coronavirus en France. D'ailleurs, les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se sont encore détériorés ces dernières 24 heures. Plus de 20 000 nouveaux cas positifs ont été enregistrés. C'est un record depuis que les tests sont effectués à grande échelle. Le directeur général de l'Agence régionale de la santé Île-de-France était l'invité de Stéphane Carpentier ce matin. Pour lui, à ce stade, il est indispensable que chacun se responsabilise. Chaque petite décision compte.
Le message, il n'est pas un message fataliste, mais il y a encore une étape qu'on n'a pas assez franchie, et je dis « on » parce que, évidemment, que je me mets dedans. Ce sont ces millions de petites décisions individuelles qui font que ce soir, on avait un dîner avec des amis qui étaient peut-être prévus depuis longtemps, et bien il vaut mieux le reporter, parce que c'est comme ça qu'on se contamine, et même si on a des amis jeunes, qu'on se dit « au fond, c'est pas grave », ben ces amis-là, il y a plus de chances qu'ils rencontrent une personne âgée qui, elle, peut devenir un cas grave.
Aurélien Rousseau, directeur général de l'ARS Île-de-France. Quatre nouvelles villes passent aujourd'hui en alerte maximale. Il s'agit de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Lille. Dans l'actualité également, une otage suisse a été tuée par des terroristes au Mali. Information fournie par Sophie Petronin aux autorités françaises. Béatrice Tocli, missionnaire baloise, a été exécutée il y a environ un mois par ses ravisseurs issus d'une organisation terroriste islamiste. Une annonce tragique qui survient alors que quatre otages ont été libérés jeudi, dont je le rappelle Sophie Petronin, qui a été détenue au Mali depuis 4 ans. Au moment de son enlèvement, elle vivait à Gao et dirigeait depuis plusieurs années une organisation d'aide à l'enfance. Les conditions de la libération de Sophie Petronin restent floues. Ce que l'on sait, c'est qu'elle fait suite à la sortie des prisons maliennes de plus de 200 détenus, dont certains pourraient venir grossir les rangs des djihadistes. Dans un instant, on part aux États-Unis. Donald Trump se relance à fond dans la campagne présidentielle.
Le journal inattendu sur RTL.
Katia Bugnatichvili, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Katia Bugnatichvili et Ophélie Meunier.
L'actualité aux États-Unis, c'est la reprise de la campagne présidentielle de Donald Trump. Malgré des doutes persistants sur sa santé, l'actuel président américain va faire sa première apparition publique cet après-midi à la Maison-Blanche. Depuis une apparition publique depuis son hospitalisation à cause du Covid-19, signe qu'il est bien décidé à se relancer dans la campagne. Il s'exprimera devant ses partisans avant de partir en Floride lundi pour un meeting. En revanche, le prochain débat face à son rival démocrate Joe Biden, un temps envisagé sous forme virtuelle, a finalement été annulé. Il n'y aura donc plus qu'un seul face-à-face entre les deux hommes avant le scrutin du 3 novembre. Un mot de culture avec du cinéma, c'est aujourd'hui que s'ouvre le 12e Festival Lumière de Lyon. Le Grand Prix a été attribué cette année aux frères Dardenne, les réalisateurs belges. 6 mois après l'annulation du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, le président du Festival Lumière, a bataillé pour que l'événement ait bien lieu malgré la crise sanitaire.
On nous a dit, puis on l'avait compris, qu'il fallait vivre avec le virus. Donc il y a des règles sanitaires très précises qui régissent nos existences et en particulier les séances de cinéma. Donc faire un festival de cinéma en 2020, c'est pas comme le faire en 2019 et j'espère pas comme on le fera en 2021. Le festival va se dérouler parfaitement bien. On a déjà vendu 40 000 tickets parce qu'il y a une appétence formidable des gens pour le retour en salle, pour le cinéma classique. Et donc je suis dans un état d'esprit égal à celui de l'an dernier, impatient, joyeux, plein d'appétit à l'idée de retrouver le public, les films et puis les artistes qui viennent les présenter.
Propos recueillis par Stéphane Boutsock pour RTL. Bien sûr, la jauge du nombre de spectateurs a été drastiquement limitée, mais la tenue de ce festival est avant tout un cri du cœur de la profession pour dire que le cinéma est encore debout.
RTL Roland-Garros 2020.
À un peu plus de deux heures de la finale dames à Roland-Garros, on retrouve Isabelle Langer en direct de la Porte d'Auteuil. Isabelle, vous allez suivre cet après-midi le match qui opposera Iga Swiatek, 54e mondiale et polonaise, à l'américaine Sofia Kenin, 6e mondiale et vainqueur du dernier Open d'Australie. Ça va pas être facile pour la polonaise.
Effectivement, Ophélie, l'émotion sera certainement le maître mot de cette finale, comme souvent chez ces dames en tennis. Laquelle des deux va mieux la gérer? Chez Sofia Kenin, l'émotion semble rayée de son vocabulaire. L'américaine de 21 ans est capable de jeter sa raquette, de râler quand elle n'est pas contente. Mais quand elle gagne, si vous obtenez un sourire, c'est déjà immense. Il faut dire que la demoiselle a été programmée pour gagner par son papa, russe, devenu citoyen américain. Et dès l'âge de 6 ans, Kenin faisait la couverture des magazines de tennis avec Andy Roddick ou Kim Clijsters, son idole. En janvier dernier, elle est entrée dans la cour des grandes en remportant son premier titre du Grand Chelem en Australie. Elle a donc déjà l'expérience de ces rendez-vous majuscules, ce qui n'est pas le cas d'Iga Swiatek, 19 ans, à peine sortie du lycée. Si ce n'est que la Polonaise réussit un tournoi extraordinaire, elle n'a pas perdu un seul set, a battu la finaliste de l'an dernier, la Tchèque Vondrousova, et sortie la tête de série numéro 1, la Roumaine Alep. Elle joue sans complexe, avec une terrible joie de vivre, c'est tellement rafraîchissant. Et vous savez comment elle se motive avant de rentrer sur le court? Écoute de la musique.
Dites-nous.
Bon, attention, rien à voir avec les mélodies que vous jouez au piano, Katia. C'est Guns N' Roses, c'est un groupe américain de hard rock, mais écoutez, ça lui réussit pour le moment.
Je vois que ça motive Katia aussi dans le studio.
Ah bon? Eh ben parfait.
Merci Isabelle Langer. Toutes les demi-heures, un point sur notre antenne sur cette journée 100% femme à Roland-Garros. Demain, la finale homme opposera les numéros 1 et 2 mondiaux, Novak Djokovic face à Rafael Nadal. Katia Bignatichvili, écoutez ça. C'est Rachmaninov,
oui,
la polka italienne.
Oui, mais
est-ce que vous avez
idée? C'est pas moi en tout cas.
Ah, non, c'est pas vous.
Parce que j'ai jamais joué polka de Rachmaninov.
Est-ce que vous avez une idée de qui peut être en train de jouer ce morceau de Rachmaninov?
Je pense que ça doit être un Wunderkind.
Alors,
mais je ne sais pas quel.
Ça va lui faire plaisir. C'est un petit garçon,
oui,
qui a 6 ans.
Non, c'est trop chou.
Il est français, il s'appelle Guillaume Benoliel, il est originaire de l'Essonne. Cet été, ce petit garçon de 6 ans a remporté le premier prix au concours international de piano à Salzbourg, en Autriche. À l'âge de 4 ans, ses parents ont découvert qu'il avait l'oreille absolue. Il écoutait une musique et il était capable de la reproduire immédiatement, sans fausse note, sur un piano. Il a alors commencé à prendre des leçons avec un professeur et aujourd'hui, à l'âge de 6 ans, il se prépare pour donner un concert où il interprétera Rachmaninov.
C'est trop mignon, c'est
incroyable,
trop magnifique.
Bon, en même temps, vous aussi, Katia, vous avez donné votre premier concert.
Moi, je lui dis déjà, comment il s'appelle le petit garçon?
Alors, il s'appelle Guillaume Benoliel.
S'il nous écoute, je l'embrasse très très fort et je le souhaite qu'il se régale au concert.
Oh, c'est adorable. Est-ce qu'on vous a dit ça, vous, avant qu'à 6 ans, vous donniez votre premier concerto à Tbilissi en Géorgie?
Non, il avait plus de discipline. On me demande plus de se ressentir le sens de responsabilité, surtout le professeur, et de vraiment... On me traitait comme un adulte déjà, ce qui est bien aussi. Mais moi, je pense que c'est aussi important de dire aux enfants qu'il n'y a pas vraiment un concours sur scène, où il n'y a pas quelque chose comme être...
meilleur dans l'art, parce que l'art, c'est d'être différent, c'est d'être des individus différents, de créer des interprétations différentes, et ce n'est pas une, comment dire, ce n'est pas une situation où on doit montrer qu'on est capable de faire certaines choses. Il faut avoir le plaisir aussi, c'est très important, parce que on peut choisir plus tard ce métier ou pas, mais il faut en tout cas avoir plaisir de le faire et aimer de ce qu'on fait, non pas que ça soit une obligation.
Ses parents disent qu'ils le laisseront libre hein, de choisir oui, s'il a envie d'en faire son métier ou pas, et Guillaume quand même dit que pour lui jouer du piano, c'est un jeu, que quand il joue, il se sent bien, il se sent heureux.
Donc voilà. Mes voilà parents, rassurés. Ils ne sont jamais forcés pour rien non plus. Donc ça, c'est très important.
Katia Ratia Bouniatichvili, votre nouvel album Labyrinthe est sorti hier. Il y a eu Schubert, il y a eu Rachmaninoff. Labyrinthe, c'est plus mystérieux. Pourquoi Labyrinthe ?
C'est plus personnel, je dirais. Mystérieux, peut-être pas parce que c'était le but, mais parce que peut-être certaines choses qui sont non compréhensibles, mais qui sont là dans notre vie, on peut voir comme mystérieux. C'est plus labyrinthe, c'est d'être perdu dans notre propre intellect, parce que notre intellect des êtres humains sont très complexes, je trouve. Et cette complexité rend les choses encore plus compliquées, nous sommes encore plus perdus. Et on ne trouve pas la sortie, parce que je pense que la sortie, c'est la fin. Mais en tout cas, on trouve soulagement dans les émotions, je pense. Donc c'est très important, justement, c'était important pour moi de choisir les morceaux où je pouvais m'accrocher à ces sentiments essentiels, ressentis essentiels de ma vie, sur le chemin de ma vie, pour pouvoir trouver un certain soulagement pour soi et libérer le cerveau de certaines polyphonies intellectuelles.
Est-ce que ça a marché ? Vous vous sentez libéré depuis que vous avez sorti cet album ?
Bon, je pense que le ressenti des soulagements... Et comme le bonheur et l'amour et certaines choses qu'on n'arrive pas à vraiment capter et donner une place précise et que ça ne bouge pas, c'est des moments quand on peut ressentir ça et après de nouveau se perdre, de nouveau se sentir plus perdu encore et de nouveau avoir besoin de rechercher ces soulagements. C'est un processus perpétuel, ça change d'une seconde à l'autre.
Le premier titre que vous avez révélé de ce nouvel album, c'est celui-ci. La Javanaise de Serge Gainsbourg. Vous interprétez une grande variété de compositeurs dans cet album. Vivaldi, Bach, Liszt, Brahms, Chopin, Gainsbourg. Comment vous les avez choisis ?
Justement, en ressentant certaines choses très particulières avec chaque morceau. Parce que pour moi, l'important, c'était de mélanger différentes époques et différents styles et différents genres de l'époque de baroque jusqu'au Serge Gainsbourg. Parce que, justement, pour effacer ce qui est une forme, mais pas le fond. Le fond, c'est d'être touché par chaque pièce et me rappeler certaines émotions, certains sentiments, certains moments de ma vie ou alors certains un moment imaginaire de mon cerveau. Voilà.
Dans cet album, il y a aussi un hommage. L'une des plus belles bandes originales du cinéma, Ennio Morricone, Il était une fois en Amérique. C'est un air extrêmement connu. Comment fait-on, Katia Bouniatichvili, pour se réapproprier une musique pareille ? Quel travail cela requiert ?
D'abord, pour réapproprier, pour donner sa couleur à un morceau, il faut aimer vraiment. C'est comme dans la vie. On rencontre des gens et les relations qui nous marquent le plus, c'est les relations dont l'amour est présent. Et l'amour est quelque chose qui est général, mais chaque individu ressent de leur propre manière. C'est la même chose avec l'interprétation, les arrangements. On donne la couleur, sa propre couleur, en gardant totalement le respect et tout de compositeur, seulement si on est capable vraiment d'aimer de tout notre cœur, avec tout notre cerveau aussi, parce que le respect, ça vient aussi en compression de nuances de compositeur, en respectant ces nuances et ne rien changer, ce qui est essentiel et l'essence de compositeur. Donc ça prend tout un univers. Ça peut durer 5 minutes, mais ça peut prendre tout l'univers de ces 5 minutes. Et surtout, c'est éternel pour le compositeur qui nous laisse les choses éternelles, puisque ça touche l'essentiel, c'est-à-dire le ressenti de l'amour, les rêveries d'adolescence ou d'enfance. Tout ça, ce sont des choses qui pourraient nous paraître éphémères, mais ce sont éternelles. Donc, Morricone, il reste éternel.
Il est éternel, absolument. Ce n'est que le début du voyage dans le labyrinthe de Katia Bouniatichvili. Restez avec nous. On se retrouve dans un court instant sur RTL.
Le
journal inattendu de Katia Bugnatichvili avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Katia Bugnatichvili,
Ophélie Meunier.
Badine Riedebach, à quatre mains, avec votre sœur Gansva, qui est d'ailleurs avec vous, qui vous a accompagné aujourd'hui. Votre sœur et votre mère sont deux personnes très importantes pour vous.
Mon père aussi.
Votre père aussi, vous le disiez dans votre autoportrait. Qu'est-ce que votre sœur et votre mère représentent? Qu'est-ce qu'elles font chacune? Pourquoi il a été décidé de travailler en famille?
D'abord, c'est deux femmes très fortes, très, très sages, très généreuses et... qui ont des sentiments très chaleureux envers moi et envers d'autres gens, parce qu'ils arrivent à, ils savent aimer en fait. Mmh. Après, c'est ma sœur, c'est mon manager aussi. Elle fait le management de tout ce qui se passe autour de moi. Elle gère tout dans le sens artistique et dans le sens direction de certaines choses, de certains projets, etc. Ma mère, elle est mon styliste. Elle était aussi mon premier professeur de musique, mais aussi elle est mon styliste aujourd'hui, parce que j'aime pas faire le shopping. Personnellement, mais j'ai le sens du style de je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et elle, elle ressent ça parfaitement pour moi, parce que d'être styliste, c'est aussi de ressentir individuellement qu'est-ce que chaque personne représente, qui est cette personne-là. Mais à part ça, elle a le don particulier, je pense, dans cette direction.
Deux femmes importantes. Ouais, deux femmes importantes qui vous entourent et qui vous conseillent. Le résultat est là. Une femme dont la beauté est totalement assumée. Vous dites, on peut être féminine.
Vous êtes une belle femme. Vous êtes encore plus belle dans la vie que. Vous êtes très belle sur l'écran, mais dans la vie. Encore plus.
En tout cas, le glamour et la beauté chez vous, ça transpire et c'est tant mieux. Vous dites, on peut être féminine et intelligente. On en est persuadé, mais vous pensez
personne
que ça...
Personne ne doute, je pense. C'est juste, c'est drôle que je dois chaque fois
c'est
mentionner ça.
Il faut encore le répéter dans notre société, malheureusement.
Dans la société de la musique classique, surtout, parce que si on voit qu'on s'habille un peu différemment, parce qu'on a notre propre style ou ce que nous sommes, on s'exprime de la façon qu'on aimerait exprimer, on commence tout de suite à catégoriser les choses, et ça, je trouve dommage. Et pas tellement ouvert d'esprit pour les gens qui ont l'ambition de comprendre la musique classique et l'art en général, parce que l'art, c'est la liberté, je pense, et on peut devenir très détaillé sur les choses qui n'ont pas l'importance essentielle,
oui.
Ce qui trouve qu'on peut avoir une vision assez étroite sur certaines choses.
L'essentiel, c'est le travail.
C'est
travail.
Ce que je fais. L'essentiel, c'est l'interprétation que je crée. Mais en fait, il y a trop de choses dans la tête avant qu'ils écoutent avec les oreilles neutres. Beaucoup de gens ne se laissent pas juste écouter ce que j'ai fait, mais d'essayer de voir d'autres choses autour. C'est un choix, hein. Ils sont libres de le faire. C'est juste, je dis que je ne comprends pas.
Pour répéter, il paraît que vous faites du air piano. Vous êtes capable de jouer un morceau dans les airs, sans piano, à la note près. C'est vrai?
Je n'ai pas compris.
Vous faites du air piano, c'est-à-dire que vous jouez un morceau sans piano et vous êtes capable de le jouer à la note près.
Qui vous a dit ça?
Sans même un piano.
Ah, je ne sais pas.
Vous faites ça pour répéter?
J'ai déjà fait ça, oui, mais je sais pas.
Si jamais vous...
J'ai déjà fait parce que...
Si jamais vous avez pas de piano à disposition, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez quand même répéter, même sans piano.
J'ai fait... Maintenant, il y a dans les loges, il y a des pianos, normalement, on demande, et
partout,
il y a
ouais.
toujours. Mais ça m'était arrivé quand j'étais enfant, on m'emmenait dans les endroits à jouer où il n'y avait pas de dressing room avec l'instrument, et éventuellement sur la table,
sur
là,
la
je
table,
faisais comme ça, ou même sur mes genoux, je le faisais, c'est possible, oui.
En 2017, vous avez obtenu la nationalité française, on en a parlé tout à l'heure.
Je suis très honorée.
D'ailleurs, vous jouez un morceau très important pour nous Français.
C'est pas moi, c'est vous qui chantez, mais c'est vous qui jouez.
On était trop joyeux parce que la France a gagné le championnat de football, donc on s'est éclaté un peu avec les amis.
Pourquoi la France?
Parce que je pense que c'est un mélange de la culture, droits de l'homme, de la liberté et d'égalité en même temps. C'est aussi simple que ça. Tout ça ensemble, c'est très rare. On peut trouver partiellement les choses dans différents pays, mais je pense en France, c'est des symboles. Mais ces symboles, ils sont très fusionnels avec la vie réelle, je pense. À mon avis, c'est le ressenti que j'ai.
On en parle avec vous dans un instant encore de la France et de la Géorgie. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Katia Bugnatichvili
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le journal inattendu.
RTL, il est 13h01.
Le journal inattendu sur RTL.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Chaque petite décision peut faire la différence. Porter le masque en famille, annuler un dîner en groupe. Le directeur général de l'Agence régionale de la santé en appelle à la responsabilité de tous, alors que les indicateurs de l'épidémie en France se détériorent. Un record de 20 000 cas positifs détectés ces dernières 24 heures. Dans ce contexte, un rassemblement qui se tient aujourd'hui à Neuvois dans le Loiret étonne. 700 personnes d'une association évangélique sont actuellement réunies. Le maire de la commune, impuissant, se dit choqué par l'événement. Selon la préfecture, et aussi étonnant que cela puisse paraître, ce rassemblement n'est pas illégal. Une semaine jour pour jour après les terribles intempéries qui ont ravagé l'arrière-pays niçois, le bilan s'est encore alourdi. Une sixième victime a été découverte et identifiée. 9 personnes sont toujours portées disparues et 13 sont supposées disparues. Les plages de Saint-Laurent-du-Var sont envahies de débris de bois et de déchets venus des montagnes. Les opérations de nettoyage sont en cours. Donald Trump refuse de se confronter à Joe Biden de façon virtuelle. Après sa contamination au Covid-19, le débat prévu jeudi prochain devait se faire à distance. Il a finalement été annulé. L'actuel président américain a décidé de reprendre sa campagne sur le terrain. Cet après-midi, il s'adressera à ses partisans depuis la Maison-Blanche et tiendra un meeting physiquement lundi en Floride. Dans 2 heures, début de la finale dames à Roland-Garros, la polonaise Iga Świątek, outsider, va tenter de défier l'américaine Sofia Kenin, vainqueur de l'Open d'Australie et 6e au classement mondial. Vous pouvez suivre la rencontre toutes les demi-heures sur notre antenne avec un point en direct de la Porte d'Auteuil. Et puis demain soir en foot, la rencontre France-Portugal pour la 3e journée de Ligue des Nations. Le match est à suivre sur M6 à partir de 20h35 et on en parle tout au long de la journée de demain sur l'antenne d'RTL. Et quel temps fera-t-il cet après-midi, Katia Bignetti-Jevili?
Cet après-midi, le ciel restera couvert entre les Pyrénées et les Alpes, avec encore des averses et de la neige de 1700 mètres. Du sud-ouest au nord-est, le ciel sera instable, avec une alternance de nuages, d'averses et d'éclaircies. Le temps sera plus sec et ensoleillé sur le nord de l'ouest du Paris, avant l'arrivée de nouvelles averses en fin de journée au nord de la Seine. Et entre la Corse et la Méditerranée, il fera beau avec un peu de vent. Les températures sont en baisse, il fera 13 degrés à Lille, 14 à Brest, 15 à Paris, Nancy et Grenoble, 18 à Toulouse, 22 à Marseille et 23 à Toulon. Et pour terminer, je vais vous faire rêver un peu, à Batumi, en Géorgie, où je suis née. C'est du beau temps avec 27 degrés prévus cet après-midi.
Oui, en effet, ça fait rêver. Merci. Merci, Katia Minacicvili.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Katia Bugnatichvili et Ophélie Meunier.
Vous êtes avec nous pour la sortie de Labyrinthe, votre 7e album. Pour chaque titre, vous avez écrit un petit texte dans le livret de l'album. On entend Air on the G-String de Bach et vous dites « Mère Nature est là, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, quoi que nous soyons, malgré les passions humaines, sa chaude brise disperse d'un souffle nos notions et suppositions. » D'où vous trouvez cette inspiration ?
Je pense de la musique, de la vie, des êtres humains que je rencontre et mélanger tout ça dans mon imagination et de mettre dans la musique surtout, mais aussi des fois je me permets de mettre dans le texte si ça a une explication personnelle, c'est-à-dire je n'ai pas l'ambition de écrire quelque chose comme un écrivain, pas du tout, c'est juste je cherche des fois les mots pour exprimer ce que je ressens dans la musique. Pour montrer que, en fait, finalement, la musique nous permet d'être très libres et de s'exprimer de notre manière personnelle. Et j'aimerais aussi donner l'inspiration aux autres de faire la même chose au public, par exemple. Parce qu'ils doivent se trouver et trouver leur égard de l'interprétation de l'œuvre à leur manière et ne pas avoir peur de s'exprimer.
Vous gardez la main avec, on va avoir votre invité. Votre invité est en ligne avec nous. Vous avez choisi aujourd'hui de recevoir Olivier Bellamy, journaliste, écrivain et spécialiste de musique classique. Bonjour Olivier Bellamy,
bonjour,
merci
Olivier.
D'être avec nous.
Bonjour Ophélie, bonjour Katia.
Merci d'être
ça
là Olivier pour nous, c'est trop gentil.
Non, c'est moi, c'est moi qui te dis merci. Oui, très très bien. Je suis à Marseille, donc il fait très beau.
Ah oui.
Voilà. Mais rien que d'entendre ta voix, de toute façon, même s'il faisait pas beau, il ferait quand même très beau.
Pareil pour moi, mon chéri. Merci.
Alors Olivier Bellamy, on le comprend, hein, vous vous connaissez très bien, vous avez déjà reçu Katia. Qu'est-ce que vous avez découvert la première fois que vous l'avez rencontré? Quel souvenir gardez-vous de cette première rencontre?
Écoutez, c'est comme, est-ce que vous êtes allé voir les chutes du Niagara?
Alors non, mais j'ai une Iguassu, idée de ce que ça peut faire chutes, comme voilà, effet.
Les chutes d'Iguassu, vous savez, qui est à la frontière du Paraguay, de l'Argentine et du Brésil, c'est une merveille de la nature. Et ça, je crois que des artistes, c'est parce que c'est vraiment, il ne faut pas dire, vous savez, comme on parle souvent de virtuosité, de technique, effectivement, elle a tout ça. Mais surtout, c'est une artiste, c'est une pure artiste, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui est à elle et qui n'est qu'à elle, exactement comme une actrice. Hein. Vous ne pouvez pas confondre Karine Viard et Catherine Deneuve, ce sont deux. Et bien, pareil, Katia, vous n'êtes pas dit, dès qu'on entend, elle a quelque chose qui est à elle et qui n'est qu'à elle. Et en plus, moi, je trouve, c'est quelque chose de l'ordre d'une merveille de la nature. C'est-à-dire que on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer comment, pourquoi c'est si beau, les chutes du Niagara ou les chutes d'Iguassu. Eh bien, quand on entend Katia Bugnatishvili, c'est pareil. On est émerveillé. Et la première fois que je l'ai entendu, c'était à la salle Playel et j'avais appelé Carole Bouquet. De temps en temps, elle me dit ah, dis-moi quand tu entends une artiste, parce que moi, je n'avais pas le temps. Je lui ai dit écoute, là, il faut vraiment que tu viennes entendre cette artiste. On est allés ensemble à la salle Playel. Katia a joué un concerto de Chopin, je me souviens très bien. Et à la fin, Carole était émerveillée. Elle m'a dit mais c'est Ava Gardner, c'est une panthère. Et c'est ça! Si vous voulez,
c'est une panthère.
Hein, elle a quelque chose d'animal, et ça c'est très rare. C'est très rare chez les artistes.
Katia a quelque chose de
vieux.
C'est vrai.
En fait, je voulais que Olivier soit là, pas parce qu'il dise des éloges sur moi, parce qu'il était aussi une grande inspiration. Vous m'avez dit d'où vient ces mots-là. Mm-hmm. Olivier, c'est quelqu'un qui arrive à transmettre les mots dans les mots, la musique. Et ça a été aussi une grande inspiration pour moi pour écrire aussi en français, par exemple.
Oh, c'est gentil.
Donc c'est pour ça que je voulais qu'il soit là avec nous aujourd'hui.
Olivier Bellamy, votre interprétation préférée de Katia, c'est le prélude numéro 4 de Chopin.
Alors non, il y a plein de choses, mais je trouve que dans ce prélude-là, que tout le monde connaît, que beaucoup de pianistes amateurs jouent, peut-être qu'il y a parmi vos auditeurs des pianistes amateurs, les notes, c'est assez facile à jouer. Mais ensuite, pour interpréter, pour faire ce que dit Chopin, c'est très spécial.
On écoute. C'est un air plutôt triste.
Olivier. Triste. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment quelqu'un qui me tend la main. Ça peut être une grand-mère, ça peut être un ami très proche, où on n'a pas besoin de parler, vous voyez, qui vous prend la main. Et tout de suite, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Et c'est une impression, évidemment, spirituelle, évidemment, émotionnelle, mais aussi très physique. C'est ça qui est génial, je trouve, dans le jeu de Katia, comme certaines grandes pianistes, comme Martha Argerich, comme d'autres. C'est qu'il y a quelque chose de très physique. Pourtant, le piano, ça paraît comme ça un peu intimidant, ça paraît rebutant, ça paraît. Il y a tellement de pièces, de bois, tellement de techniques. C'est génial pour faire un piano, mais on a l'impression que c'est aussi direct que si c'était une petite flûte ou un petit instrument comme ça, de très très simple, populaire, paysan. Il y a quelque chose comme ça, moi, qui me touche énormément dans cette interprétation-là.
Le physique, l'animal, comme le disait aussi Olivier Bellamy dans vos interprétations, ça fait entièrement partie de votre personnalité, de votre carrière aujourd'hui. On vous connaît et reconnaît aussi pour ça. Et c'est totalement assumé, c'est éclatant d'ailleurs.
Ce que je vais répondre à votre question, mais en aussi faisant parallèle avec Olivier, ce qu'il dit, en fait, c'est fascinant, je trouve, de la façon dont il parle de la musique, parce que moi, si vous me parlez de Chopin, je pourrais vous parler de Chopin et ce que je vois en Chopin. Et ce que Olivier, il arrive à faire, c'est qu'il peut parler de Chopin, mais en même temps, il peut parler de l'interprétation qui change une
quelque chose, toute petite chose qui s'ajoute, en fait, je ne dirais pas que sa chance, mais qui s'ajoute à Chopin. Il arrive à parler de Chopin d'une façon tellement fidèle de quelqu'un qui adore ce compositeur, mais en même temps, il arrive à ajouter quelque chose d'interprétation et mélanger ça ensemble sans que ça soit désagréable pour les gens qui admirent particulièrement Chopin. Ça, il a ce talent incroyable et je suis, chaque fois quand il parle, j'écoute avec grande admiration. Et c'est pour ça, c'est toujours un bonheur. Je voulais entendre votre voix et d'entendre vos opinions et vos perceptions de Chopin et en général de tout. Mais oui, pour revenir à votre question, quelque chose de physique, oui, je pense que c'est de jouer l'instrument, c'est quelque chose de très physique parce que à travers la toucher, qui est notre sens, c'est une de nos sens essentiels, on exprime nos ressentis, nos réflexes, nos pensées, notre intellect, mais aussi nos émotions. Tout ça ensemble, ça se crée dans la toucher, juste en touchant un petit peu l'instrument. Et c'est un bon exemple dont parle Olivier, Chopin 4e prélude, parce que justement ça n'exige pas de faire trop, il ne faut pas trop faire, mais avec une seule touchée, avec une seule note, on peut s'exprimer tout simplement. On est nu dans ces morceaux, on peut pas tricher, on peut pas mentir, nous sommes qui nous sommes. Parce que Chopin ne nous laisse pas la place pour l'artificiel et pour le mensonge. C'est la vérité totale, pure et nue.
Merci. Merci Katia. Merci Olivier Bellamy. Je rappelle votre dernier livre, L'automne avec Brahms. Un portrait intime de Brahms est actuellement disponible. Dans un instant, Katia Bugnatichvili, petite surprise et votre reportage inattendu. À tout de suite sur RTL.
Katia Bugnatichvili est l'invitée du journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu de Katia Bugnatichvili
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Rendre la musique classique accessible à tous, c'est le but de Demos, un projet initié par la Philharmonie de Paris. On vous emmène dans un atelier de Demos qui a eu lieu dans la banlieue de Lille cette semaine. Des enfants ont pu découvrir pour la première fois la pratique du violon, de l'alto ou du violoncelle. C'est votre choix de reportage inattendu, Katia Bugnatichvili. Il est signé Antoine Decarne.
Dans le centre social d'Em, dans la banlieue lilloise, la douzaine d'enfants du projet Demos de la ville retrouvent deux musiciennes de l'Orchestre National de Lille.
On va revoir un peu les fondamentaux de vos instruments.
Ici, le groupe est composé uniquement de cordes, violoncelle, alto et violon ont été prêtés aux enfants pour commencer l'apprentissage avec la violoniste Esther de Voldre.
Nous allons étudier un morceau traditionnel qui vient de Macédoine.
Le morceau s'appelle Ousti Baba et les enfants vont devoir apprendre à en jouer une partie.
Alors on va essayer de commencer aujourd'hui la partie qu'on appelle pidz.
Le pidz, ce sont des notes pincées avec les doigts qui favorisent un apprentissage par imitation.
La, sol, la. Est-ce que vous pouvez le dire une fois ?
La, sol, la.
La différence de l'école de musique, les enfants d'abord apprennent le solfège et après, en général, on leur enseigne l'instrument. À Demos, la démarche est inverse, ça veut dire qu'on apprend d'abord à plus ou moins manipuler l'instrument, donc on va leur apprendre effectivement pas à pas la mélodie.
Et tous ces enfants, une centaine dans la métropole, ont eu accès gratuitement à cet enseignement grâce au projet Demos qui démocratise la musique classique dans ces quartiers populaires. Ingra Sord est coordinatrice du projet à Lille.
Il y a trois conditions principales pour participer au projet. C'est que les enfants qui commencent le projet, ils ont entre 7-8 ans, qu'ils n'aient jamais fait de la musique avant et qu'ils aient surtout envie de faire de la musique.
Et cela plaît à Jade et Naël, 8 ans, respectivement violoniste et violoncelliste. Et malgré l'arrêt du Covid, ils ont découvert une passion.
J'avais toujours voulu faire de la musique. Avec ce qui s'est passé, du coup, j'ai continué à la maison.
On joue du violon et on apprend de plus en plus de musique.
Un succès pour les enfants, donc. Et justement, Katia Bugnatichvili, leur professeur Esther de Voldre, a une question pour vous.
Alors, Katia, est-ce que vous auriez eu envie, soit petite ou soit même aujourd'hui, aujourd'hui d'apprendre comme les enfants un instrument d'orchestre pour pouvoir aussi découvrir cette sensation de pouvoir jouer aussi en collectif au milieu d'un orchestre symphonique. C'était la petite question du jour.
Merci beaucoup Esther pour la question. C'est oui, je voulais apprendre le violon, mais comme vous savez, le violon est un instrument très très cher et c'était difficile de vraiment avoir en Géorgie. Je voulais apprendre le violon et j'aime beaucoup le partage dans la musique. C'est une chose essentielle, je pense. Quand on joue ensemble, même quand je suis soliste avec l'orchestre, je ne veux pas jouer comme un soliste. Bien sûr, il faut mener vers quelque part. Mais à part ça, c'est important qu'on ait ressenti que chaque membre de l'orchestre compte. Ils apportent leur couleur, leur façon de regarder la musique dans l'interprétation et de sentir que nous faisons ça vraiment ensemble et que je suis admirative de l'orchestre. Donc, ces sensations que je cherchais peut-être comme enfant, j'ai retrouvé après en étant soliste avec des orchestres où ils se sentent qu'ils sont aussi admirés et respectés que solistes et chefs d'orchestre aussi, en tout cas de ma part.
Entre les orchestres, le travail et la musique classique, pour vous détendre un peu, vous écoutez ça. Une version très précise hein, de Just in Time, oui. De Nina Simone.
Je crois que c'est encore une autre. Je
pense en live que c'est à Paris. Ah, je crois qu'on a vraiment pris celle que vous aviez demandée.
Peut-être qu'on a envoyé une mauvaise. Mais ça, c'est magnifique aussi. Je connais toutes les versions, je crois. Okay. Mais je n'arrive pas à préciser c'est laquelle précisément. Je connais, si j'entends tout de suite, je le reconnais. Mais ça aussi, c'est magnifique. C'est ça qui est magique, c'est Nina Simone, que chaque fois, elle était différente.
Chaque fois,
elle apporte différentes émotions. En fait, c'est pour se décontracter, mais. C'est tellement, en même temps, il y a un côté tellement sombre dans sa joie aussi, parce que c'est une femme très complexe, c'est une femme qui a tellement de personnalité que ça étouffe tout l'espace, ça prend toute la place. Étouffer, c'est pas le mot, ça prend toute la place. Qu'il y a de se décontracter aussi, mais il y a aussi un petit côté mélancolique et nostalgique et un petit peu blues, vous voyez, blues. Un peu de blues, mais dans l'eau. Dans le bon sens, c'est quelque chose qui nous remplit avec des émotions et d'inspiration. Je l'adore.
Une inspiration pour vous, et puis vous écoutez aussi ça. Keith Jarrett, My Wild Irish Rose. Une inspiration aussi, un souvenir, une détente.
C'est tout pour moi. En fait, ça me suffirait d'avoir juste la musique comme ça, simple, à l'instrument. Parce que Keith Jarrett, il peut faire tout avec l'instrument. Il peut faire des choses inimaginables dans le sens polyphonique, virtuose, intellectuel, émotionnel. Il peut tout faire. Il fait des choses qu'on pensait qu'étaient impossibles à faire parce qu'il a détruit tous les possibles frontières, c'est-à-dire il est allé plus loin dans l'instrument, je pense, de piano, Keith Jarrett. Mais après, il a fait ça, cet album où
tout The simplement Melody at Night.
Oui, With You. C'est un album où, d'une façon tellement simple, il dit tout. Et pour moi, c'est l'essence de vie, ça me suffit. Tout d'autres choses qu'il a fait, c'est magnifique que ça existe parce que ça donne le rythme à la vie. Mais ça, c'est suffisant. Tout est dit, je pense.
Presque tout est dit. On va vous garder encore un petit peu dans un instant. C'est votre surprise. Katia Vignetti-Julie, à tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Katia Bugnatichvili et Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Katia Bugnatichvili et Ophélie Meunier.
On vous écoute, mais il faut vous voir aussi. C'est ça qui est extraordinaire avec vous. Vous êtes en train d'interpréter Litz, là, dans notre studio. On a une petite surprise pour vous. Si je vous dis chaussures, et si je vous dis semelle rouge.
Ah. Ah oui, c'est Louboutin.
Bonjour, Christian Louboutin.
Oh non.
Bonjour.
Merci d'être
possible.
Avec nous. Est-ce que la surprise est réussie, déjà?
Non, mais c'est surtout inimaginable, parce que...
C'est vrai?
J'ai même pas mis mes Louboutins aujourd'hui.
Ah non, mais ça, fallait pas le dire. On va remédier à ça.
Mais c'est pas possible.
Alors, je précise que vous ne vous connaissez pas, mais que chacun admire le travail de l'autre et le goût du rouge vous unit. Christian Louboutin, on en a parlé, voilà, comment L'habillement, le choix, on a parlé de votre mère qui est styliste. Le choix d'une chaussure, d'une robe peut raconter quelque chose de fort sur quelqu'un, comme c'est le cas pour Katia.
Alors, vous me posez une question, là ?
Oui.
Non, parce que j'ai compris, vous disiez que ma mère était styliste.
Ah non, c'est la maman de Katia.
C'est ça.
La maman de Katia, qui est sa styliste, qui habille Katia.
Moi,
comment justement, voilà, les choix de chaussures, de robes, les choix de sa maman à Katia, comment ça raconte quelque chose de fort sur un artiste, sur quelqu'un comme vous et comme Katia ?
Ben, moi, je pense en tout cas, mais je ne connais pas Katia, donc c'est vraiment à elle qu'il faut poser la question. Mais de s'entourer de gens dont on est très proche à la base, c'est déjà une chose très importante. Le fait d'être en confiance avec quelqu'un, surtout quand on doit l'exprimer à travers des vêtements, etc., à travers des accessoires, c'est beaucoup de temps de gagner si on connaît vraiment profondément la personne. Donc j'imagine que votre mère, vous connaissant suffisamment, c'est pas un boulot ni vraiment dur entre vous deux, et puis surtout vous gagnez beaucoup de temps, non ?
Tout à fait, surtout j'aimerais exprimer mon admiration parce
absolument.
Que c'est une surprise pour moi et surtout une surprise que je ne pouvais jamais rêver ou imaginer. J'ai une grande admiration pour vous parce que ce ne sont pas juste les chaussures ce que vous faites, c'est de l'art. Et dans cet art, à part que c'est de l'art, je vois que vous aimez les femmes, vous aimez les femmes comme elles sont, vous aimez les différences entre les femmes, vous aimez les caractères forts et différencier ces caractères forts, et surtout vous aimez de nous mettre dans une position pas de conformisme, c'est-à-dire vous nous sortez de zone de conformisme, parce que pour vous les chaussures ce n'est pas seulement la beauté de l'art, c'est aussi de bouger les sentiments en nous et chaque matin, chaque jour nous mettre dans une situation où nous sommes plus de conformistes, donc nous sommes prêtes pour résister, nous sommes prêtes pour dire nos mots à nous, à l'univers, au monde, et de laisser notre signature. Vous permettez à chaque femme de laisser leur signature, alors que votre signature est tellement fort et tellement à vous, mais en même temps vous nous laissez à nous de laisser notre signature à nous. Donc je vous aime beaucoup, je vous admire et je vous remercie de faire cette surprise pour moi.
Malheureusement, on doit déjà se quitter, mais restez en ligne. On va juste après l'émission, vous allez pouvoir continuer à vous parler tous les deux. Merci Christian Louboutin, merci Katia Bugnatichvili d'avoir été avec nous. Votre album Labyrinthe est désormais disponible et téléchargeable sur toutes les plateformes. Tout de suite, c'est Jean-Alphonse Richard, confidentiel consacré à Kurt Cobain. Mon invité la semaine prochaine, Thierry Ardisson. Bon week-end à tous et rendez-vous samedi prochain, 12h30 sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.